On commence. OK. On lève les amarres. C'est qu'on est dans le mystère de l'enlèvement. Sujet très intéressant, l'enlèvement de l'Église. C'est un mystère. On va pour notre mot mystère, on va aller dans 1 Corinthiens 15. On va lire à partir du verset 51. Donc, c'est le mystère de l'enlèvement de l'Église avant la tribulation, car la tribulation, la colère de Dieu va venir sur la terre pour juger les habitants de la terre. Le Seigneur Jésus vient chercher son Église. C'est ça qu'on va voir ensemble. On va voir le mystère de l'enlèvement de l'Église. On est encore dans les mystères dispensationnels. On a vu le mystère du royaume des cieux dans Matthieu 13. On a vu le mystère de l'aveuglement d'Israël dans Romains 11, 25. Là, on voit le mystère de l'enlèvement de l'Église. Puis ensuite, éventuellement, on va voir le mystère de sa volonté. Puis ensuite, le mystère de Dieu, puis qui va nous mener au mystère, un mystère dévotionnel, c'est le mystère de Christ qui habite en nous. Puis après, ça termine avec deux mystères, le mystère de l'iniquité, c'est des mystères diaboliques, et le mystère de la grande Babylone. On n'aura probablement pas le temps d'y faire avant quand on va arrêter pour l'été, mais on va continuer, Seigneur voulant, dans l'automne. Ce qu'on lit maintenant dans 1 Corinthiens 15, verset 51, Paul ici qui dit, Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse la lecture de sa parole, on va demander son aide. Seigneur notre Dieu, on te remercie encore une fois d'être rassemblés ensemble ce soir pour pouvoir regarder ta parole, Seigneur. On te demande ton aide pour qu'on puisse bien comprendre les choses que tu as écrites, pour qu'on puisse les comprendre, afin qu'on puisse te connaître mieux, t'aimer davantage. Et pouvoir te servir en attendant notre rassemblement ensemble avec ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. On te remercie, notre Dieu, puis c'est au nom précieux de notre bien-aimé Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qu'on prie. Amen. Donc, on est ici dans l'enlèvement de l'Église. Ça, ici, c'est la résurrection, mais on sait que la résurrection, on va avoir besoin de passer par la résurrection pour l'enlèvement de l'Église, peut-être qu'on ne sera pas tous morts. Ça semble bien qu'on peut être plusieurs parmi nous, faire partie de cet enlèvement-là quand on sera vivant pour la venue du Seigneur. Mais l'enlèvement de l'Église, c'est quelque chose qui avait été perdu durant les années sombres. Ce qu'on appelle les années sombres, c'est quand dans l'histoire de l'Église, l'Église avait perdu de vue son espérance, l'Église avait perdu de vue aussi la parole de Dieu qui avait été négligée, puis on avait perdu de vue des choses précieuses de la parole. C'est dans le système de ce qu'on appelle l'Église organisée, puis même on sait que dans un temps, même nous, ceux de nous qui avons grandi dans l'Église catholique, la parole de Dieu était très négligée, même n'était pas encouragée. On n'était pas encouragé à lire la parole de Dieu parce que l'Église était tellement détournée de la parole de Dieu. Il y a un frère qui me disait qu'il avait commencé à lire le Nouveau Testament, puis sa mère lui a dit, lis pas ça parce que si tu lis ça, tu vas changer de religion. Et puis il a pensé à ça comme fou, puis il a dit, si ma religion est basée sur la Bible, ça ne devrait pas me faire changer de religion de lire le Nouveau Testament. Mais si en lisant le Nouveau Testament, je change de religion, mais peut-être que je devrais. Puis éventuellement, il a trouvé le salut dans la personne du Seigneur Jésus-Christ et non dans la religion. Puis il s'est détourné de la religion pour se tourner vers la parole de Dieu. Donc, l'enlèvement d'Église, c'est quelque chose qui avait été perdu. mais qui a été retrouvé durant le réveil. Quand on parle du réveil, on parle des années 1800, où des gens, des chrétiens, se sont mis à sonder les Écritures pour trouver, retrouver des choses qui avaient été oubliées ou perdues de vue. Et ils ont ramené des choses qui étaient précieuses parce qu'ils ont fait de l'écriture l'objet de leur recherche. Puis ils ont fouillé, ils ont cherché, ils ont encouragé les uns les autres. Puis ils ont revenu à ça. C'est pour ça qu'on appelle le réveil. Le réveil, c'est toujours un retour à la parole de Dieu. C'est quand la parole de Dieu est prise au sérieux et qu'elle va transformer notre vision, puis va transformer aussi notre vie. Mais cette espérance-là, qui est l'enlèvement de l'Église, c'est quelque chose qui nous garde dans la sanctification. Parce qu'on veut être prêt. Hein? Ça peut arriver à n'importe quel temps. On dit que l'enlèvement de l'Église, c'est quelque chose qui est imminent. Ça veut dire que ça peut arriver à n'importe quel moment. Il n'y a pas besoin d'aucun signe prophétique qui doit s'accomplir. Tout peut s'accomplir après l'enlèvement de l'Église. Les signes sont pour la tribulation. Les signes sont pour l'homme de péché, l'Antichrist qui va venir. Et le faux prophète. Ces choses-là, le Seigneur nous a avertis d'avance. Mais pour l'Église, il n'y a rien qui a besoin de s'accomplir. L'Église peut partir à n'importe quel temps. Puis les autres choses vont s'accomplir. Mais c'est pour ça que quand on a cette espérance-là en nous, qu'on attend la venue du Seigneur, bien, on ne veut pas être trouvé dans des endroits où il ne voudrait pas nous trouver. On veut être trouvé veillant. On veut rester les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Puis on attend un peu comme les disciples quand le Seigneur Jésus a quitté la terre après sa résurrection sur le mont des Oliviers. Pendant qu'il les bénissait, il a commencé à monter vers le ciel. Puis quand il est monté vers le ciel, il est monté jusqu'à ce que les nuages le dérobent à leurs yeux, donc perdu dans les nuages. Puis il y a des anges qui sont. Les autres, ils continuaient à regarder dans le ciel. Probablement qu'il y avait cette attente-là, parce que le Seigneur leur avait dit qu'il allait revenir. Ils attendaient qu'il revienne. Puis les anges lui ont dit que ce même Jésus qui était monté au ciel du milieu d'eux allait revenir de la même façon. Donc, il regardait. Mais aujourd'hui, on voit que, vous savez, dans l'histoire de l'Église, l'Église s'est détournée, mais on peut encore se détourner aujourd'hui. Puis, c'est ça qui arrive aujourd'hui. On dirait que l'Église revient à un point où elle perd de vue encore cette espérance-là. Puis, elle perd de vue aussi sa vocation. Sa vocation, c'est pas de réformer le monde. La vocation de l'Église, c'est de prêcher l'Évangile à des individus et des individus qui se convertissent au Seigneur. Le monde est déjà jugé et c'est pour qu'eux se retirent du monde, qu'ils se tournent vers le Seigneur Jésus. Mais le monde, on sait que le monde va être jugé. Le monde ne va pas être réformé. Le Seigneur n'est pas là pour réformer le monde, mais il est là pour sauver des individus. Et il a donné cette vocation-là à l'Église, comme il l'a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais on voit qu'aujourd'hui, des fois, l'Église perd sa vocation. Puis ils vont commencer à avoir à essayer de lutter contre l'avortement, essayer de réformer le monde. Mais c'est pas la vocation de l'Église. La vocation de l'Église, c'est de se séparer du monde. De témoigner de son Sauveur, son époux, le Seigneur Jésus-Christ, puis de chercher à trouver des disciples pour qu'ils soient sauvés, puis les enseigner, qu'est-ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Donc aujourd'hui, on voit que l'Église, encore une fois, commence à perdre de vue encore sa vocation et son espérance. Dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, il y a des centaines de références au retour visible du Seigneur sur la terre. Quand le Seigneur Jésus va revenir sur la terre, ça c'était dans l'Ancien Testament, c'était prédit. Dans le Nouveau Testament aussi, il y a beaucoup d'endroits qui parlent de son retour visible pour venir juger la terre, pour venir installer son règne de paix, un règne qui va durer 1000 ans. Ça, il y a plein de références. Mais la vérité du retour secret, du Seigneur sur la nuée. Il ne vient pas sur la terre, il vient sur la nuée. C'est nous qui allons aller à la rencontre du Seigneur sur la nuée. Mais ça, c'était un mystère. Ce n'était pas révélé dans l'Ancien Testament. Même si, oui, il y a des types qui, maintenant qu'on a la révélation du mystère, on voit qu'il y a des types qui nous montrent ces choses-là, mais ce n'était pas révélé dans l'Ancien Testament, là. Donc, le secret, c'est que le Seigneur Jésus vient enlever son Église, une compagnie de croyants, ceux qui ont mis leur confiance en lui. Il vient les enlever de la terre avant de mettre son jugement sur la terre, sur les habitants de la terre. C'est ce qui va s'abattre. Mais c'est une vérité qu'on avait vue. Parce que la condamnation qui vient sur les habitants de la terre, c'est à cause des péchés. Mais nous, le Seigneur Jésus a pris à notre place notre condamnation. On n'est pas, comme il dit dans Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc nous, on n'est pas des enfants de colère comme les autres, on est des enfants de lumière. Et on n'attend pas, il y a des gens qui nous disent qu'on va passer à travers la tribulation. Moi, je leur dis, si vous attendez l'homme de péché, moi, j'attends l'homme sans péché. C'est lui qui va venir une deuxième fois sans péché pour nous enlever, nous emmener avec lui. Donc, on va regarder un peu cette vérité-là, ce mystère-là, parce que comme on a vu dans le verset 51, il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Puis là, il parle de la résurrection. Puis cette résurrection-là va nous emmener à aller trouver le Seigneur sur la nuée. Donc, comme on a dit tantôt, cette espérance-là de l'Église, ce mystère-là avait été perdu durant les temps quand l'Église est sortie de la persécution. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Constantin, un des empereurs romains, qu'on en a parlé déjà, lui, vers les années 300, lui, il s'est dit être chrétien. Il a dit qu'il s'était converti. Puis, l'empereur s'étant converti, supposément, eh bien, les sujets de l'empereur ont voulu s'associer à l'empereur, puis ont professé à devenir chrétien, de persécuter l'Église qu'elle était. Maintenant, c'est le monde qui rentre dans l'Église. Donc, elle s'est alliée au monde, cette Église-là, parce que là, la persécution était arrêtée. C'était même bien vu maintenant d'être un chrétien parce que l'empereur se disait lui-même chrétien. Mais ces gens-là sont rentrés dans l'Église pas avec une vraie conversion. Ils ne se sont pas convertis de cœur. Ils se sont pas repentis de leur péché. Leur vie n'a pas été changée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Sauf que ces gens-là ne s'étaient pas vraiment convertis. C'est ça, ils s'étaient convertis comme à une religion, mais ils s'étaient pas convertis. Ils s'étaient pas repentis de leur péché, ils n'avaient pas trouvé le pardon de leur péché dans la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Donc, leur vie n'a pas été transformée. Il ne faut pas dire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature parce qu'il n'était pas en Christ. Donc, ils sont entrés dans l'Église avec les idoles, puis ils ont amené tout ça dans l'Église. On a éventuellement changé le nom des idoles, on leur a donné des noms chrétiens, des noms des saints pour que ça paraisse mieux, mais c'était, vous savez, quand on va à Rome, c'est remarquable, on voit dans la ville de Rome, il y a plein de statues. Les statues dans Rome sont quasiment toujours nues. Mais quand on arrive au Vatican, c'est encore plein de statues, là, sont habillées. Mais c'est tellement frappant que ça ressemble tellement à la Rome avec toutes ces idoles. Mais là, on leur a donné des noms chrétiens, c'est Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Marie, toutes ces choses-là. Donc, c'est ça qui est arrivé. Mais c'est ça qui a amené maintenant, le Seigneur Jésus a perdu la prééminence, sa place de prééminence dans le cœur de ceux qui professaient. Et eux, il n'y avait pas le Seigneur Jésus à cœur. Comme quelqu'un qui était vraiment sauvé, ben, puis il faut garder les yeux sur le Seigneur Jésus. C'est lui qui a la première place il dit, regardant à mes yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est important. Donc, c'est ça qui a amené les années sombres. Puis, quand on lit cette portion-là de l'histoire de l'Église, C'est vraiment pas beau. Ça devient une triste aventure de lire qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans ce qu'on appelait l'Église. L'Église avait perdu de vue son espérance. Puis son espérance, c'est quoi? Ben, c'est d'être enlevé du monde avant que le monde soit jugé. Puis, mais on était venu à attendre la fin du monde. Puis c'est ce qu'on a connu, nous qui avons grandi dans l'Église. On a toujours pensé que la fin du monde arrivait, puis là, Dieu venait avec sa balance, puis il mettait nos œuvres, les bonnes œuvres, puis les mauvaises œuvres, puis ce qui était plus pesant déterminait si on allait être perdu ou sauvé. Puis il y avait le purgatoire pour essayer de. Parce que c'est sûr que tous ceux qui sont sincères, on sait très bien que nos mauvaises œuvres sont vraiment un fardeau lourd. On avait mélangé un peu le jugement ici. C'est quand on parle du jugement des nations vivantes au retour visible du Seigneur Jésus, quand il va revenir avec son Église sur la terre pour juger les vivants et les morts, ben, on voit ça dans Matthieu 25. On va aller dans Matthieu 25, les versets 31 à 33. Puis, c'est ça qu'on voyait comme on ne différenciait pas entre le jugement des nations vivantes à la fin de la tribulation et le jugement l'enlèvement de l'Église. Le jugement que l'Église va passer au travers, c'est pas un jugement à savoir si on est sauvé ou pas. C'est une évaluation de le tribunal de Christ qu'on va passer après l'enlèvement où nos œuvres, c'est pas nous qui sommes jugés, c'est nos œuvres qui sont évaluées à savoir si elles sont faites pour la gloire de Dieu ou si elles ne sont pas faites. On va avoir une récompense ou une perte de récompense. Mais qu'est-ce qu'on voyait? C'était comme le jugement des nations vivantes dans Matthieu 25, verset 31. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Donc, il vient dans sa gloire, puis il s'assoit sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc ça, c'est pas toute l'humanité, c'est les nations vivantes, ceux qui vont être encore vivants, ceux qui vont être encore sur la terre, quand le Seigneur Jésus vient dans sa venue visible et non secrète. Puis ça, on avait parlé quand on avait, dans le royaume des cieux, c'était le filet qui est jeté dans la mer, puis qu'on ramasse tous les poissons, puis qu'on fait un triage sur qu'est-ce qui est bon, on regarde, ce qui est mauvais, on jette. Ben, c'est ça qui représente. Mais ça, c'est pas l'espérance de l'Église. L'Église ne sera pas à ce jugement-là des nations vivantes. L'Église va déjà être avec son Sauveur, puis elle va revenir avec son Sauveur. Donc, mais cette théologie-là qu'on voit, l'eschatologie, ça avait été perdu, les événements de la fin, ça avait été perdu dans cette église-là qui s'était détournée des Écritures. Mais maintenant, on a eu la réforme. La réforme est revenue au salut par la foi, comme on avait déjà dit, mais ils n'ont pas découvert toutes ces vérités-là. Ils se sont arrêtés au salut par la foi, puis ils n'ont pas découvert ces choses-là. C'est arrivé la réforme des années 1600. Dans les années 1800, là, on parle du réveil, quand ces vérités-là sont ressorties à la lumière parce qu'on a recherché les Écritures. Mais aujourd'hui, on voit que la théologie de la réforme, on entend parler beaucoup de la réforme, puis on revient à la réforme, mais la réforme n'avait pas découvert ces choses-là. C'est arrivé durant le réveil. Donc, comme on dit, c'était retrouvé durant le réveil. Dans les années 1800, puis un de ceux qui, il y en a qui ont présenté cette vérité, mais un qui l'a découvert, qui l'a proclamé, cette vérité-là de l'espérance de l'Église dans l'enlèvement de l'Église, c'est J.N. Darby. On sait qu'il y a des gens qui disent, OK, c'est trop nouveau pour être vrai. Sauf que quand il faut réaliser que même au début de l'Église, on connaissait ces choses-là, mais ça avait été perdu dans les années sombres. C'était redécouvert durant le réveil. Donc, ce n'est pas un bon argument de dire que c'est trop nouveau. Ce n'est pas nouveau. C'est juste que ça a été retrouvé de nouveau dans le réveil. C'est revenu à la lumière. Puis on va voir en regardant les Écritures que Le Nouveau Testament, comme on a dit, parce que l'Ancien Testament ne mentionne pas l'enlèvement de l'Église, même l'Église n'était pas mentionnée dans l'Ancien Testament, sinon par des types qui n'étaient pas compris à ce moment-là par les gens de ce temps-là. Mais maintenant, nous, on voit que l'Église, c'est quelque chose qui a été, le Seigneur a révélé, puis qu'on voit maintenant, mais aussi avec son espérance de l'enlèvement avant la tribulation, ça s'était retrouvé. Darby, quand il est allé en Suisse, puis il a fait des conférences sur le sujet de la venue du Seigneur pour l'enlèvement de son Église. Puis c'était des églises réformées qui étaient en Suisse. On sait Zwingli qui était là, puis les réformateurs. Donc, il y avait les gens étaient regroupés dans des églises réformées, mais même à ce moment-là, il y avait même beaucoup de gens dans l'église qui n'étaient pas sauvés. Et quand ils sont allés par curiosité écouter les conférences que Darby donnait sur le retour du Seigneur pour enlever son église, l'enlèvement de l'église, parce qu'ils étaient vraiment curieux de savoir comment ils pourraient trouver ça dans les Écritures. Puis ils ont été vraiment surpris que ça ressortait du Nouveau Testament. C'était partout dans le Nouveau Testament. On voit que c'était une espérance vraiment que les disciples, les premiers disciples, étaient vraiment, ils ont écrit le Nouveau Testament, eh bien, c'était vraiment l'espérance qu'on attendait, c'était le retour du Seigneur. Donc, les gens sont allés par curiosité, mais en voyant ça dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils se sont convertis, puis c'est pour ça que la Suisse était en grande majorité, la Suisse était, les gens étaient tous, faisaient partie de des assemblées exclusives, parce que Derby, c'était des assemblées exclusives. Mais on voit qu'un des versets qui les a frappés, c'était 1 Thessaloniciens 1, 9, 10. 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10. Puis Paul disait ici, car on raconte à notre sujet. Quel accès nous avons eu auprès de vous? Quand ils sont allés enseigner les Thessaloniciens, quand ils sont allés prêcher l'Évangile, Paul est dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Voyez-vous, là, ici, on a le mystère qui est bien expliqué par Paul, le haut Thessalonicien. Ça c'est que dans le réveil, ils ont redécouvert ces choses-là, mais ils étaient toujours là dans le Nouveau Testament, ces versets-là. Puis, ils étaient étonnés de voir ça. Ils se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles, puis pour servir le Dieu vivant, présentement, après avoir été sauvés, pour servir le Dieu vivant et pour attendre. L'espérance de l'Église ici, pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Donc, il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament, c'est partout dans le Nouveau Testament, c'est ça qui les a frappés, ces gens-là, qu'ils voyaient ça partout dans le Nouveau Testament, ils ont été convaincus par la parole de Dieu de la réalité, de la vérité de ce mystère qui est l'enlèvement de l'Église. Donc, l'enlèvement, elle n'était pas révélée dans l'Ancien Testament, mais là maintenant, dans le Nouveau Testament, elle est vraiment révélée. Quand on le voit, on le voit dans différents endroits. Mais on voyait quand même dans les types, on voyait dans l'Ancien Testament qu'il y avait l'enlèvement avant le jugement. On parle dans la Genèse, Énoch, on dit qu'Énoch marchait avec Dieu dans Genèse 5, 24. Énoch marchait avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ça, c'était avant le déluge. Il a été enlevé avant que le déluge vienne sur la terre, un jugement de Dieu sur les hommes de la terre. Mais il dit que Énoch marcha avec Dieu. Puis c'est important, comme dans 1 Thessaloniciens, il dit pour servir le Dieu vivant, donc pour marcher avec Dieu et attendre des cieux son Fils. C'est ce qui est arrivé avec Énoch. Énoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Parce que pendant qu'il était en train de marcher, on sait que Enoch, il prêchait le jugement qui allait venir, puis il a marché avec Dieu, puis à un moment donné, Dieu l'a pris, puis l'a emmené avec lui, avant de déverser son jugement sur les habitants de la terre, qui était le déluge. Lui, Enoch est un type de l'Église qui est enlevé avant. Noé, lui, n'était pas un type de l'Église, parce que Noé n'a pas été enlevé. Noé est passé à travers le jugement. Lui est un type d'Israël. Israël, quand l'Église est enlevée, le peuple d'Israël reste sur la terre. Puis, ils vont passer à travers la tribulation, puis ils vont ressortir sur la nouvelle terre, qui est le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Puis c'est ça que Noé était, lui. Donc, il est passé à travers le jugement, puis il est ressorti de l'autre côté. On sait que dans la tribulation, il y a les deux tiers d'Israël qui vont périr parce qu'ils vont se tourner vers l'homme de péché. Ils vont être séduits par l'Antichrist, puis ils vont se tourner vers l'homme de péché, puis ils vont périr avec lui. Mais il y a là un tiers, que la parole de Dieu nous dit dans la prophétie, un tiers d'Israël qui ne se tourneront pas vers l'homme de péché, qui vont rester fermes. Et à la fin de la tribulation, dans leur détresse, ils vont crier au Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Puis là, ils vont, comme le Seigneur dit, ils me verront, celui qu'ils ont persécuté, puis ils vont être restaurés en tant que nation. On avait vu ça dans l'aveuglement d'Israël, le mystère de l'aveuglement. À ce jour-là, leurs yeux vont s'ouvrir, puis ils vont voir leur Messie, ils vont être sauvés. Donc, quand Paul parle de l'enlèvement aux Thessaloniciens, ben, comme Enoch marchait avec Dieu, puis comme il dit aux Thessaloniciens de servir le Dieu vivant et attendre des cieux son Fils, ben, il parle dans le contexte de 1 Thessaloniciens 4, ben, il parle de marcher. Donc, c'est important que dans notre attente de l'enlèvement, on doit marcher avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, au verset 1, il dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche et que c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Voyez-vous, avec le thème de l'enlèvement de l'Église, avec le thème de l'espérance, on doit marcher d'une façon digne. On doit vraiment être dans la sanctification, attendre des cieux le Seigneur Jésus-Christ. On voit aussi que Lot Dieu l'a fait sortir de Sodome avant de juger Sodome. On voit aussi, comme ça, c'est des types de l'Église, on voit aussi Élie qui, lui, a été enlevé dans un char de feu. Donc, il est monté au ciel sans mourir. C'est ça qu'on va voir, ceux de nous qui vont être présents, qui vont être vivants pour le retour du Seigneur, on n'aura pas besoin de mourir. Mais on va avoir besoin quand même d'être transformés. Comme ceux qui vont ressusciter incorruptibles, puis nous aussi, il faut revêtir l'incorruptibilité. L'enlèvement de l'Église ou l'espérance de l'Église, c'était introduit par le Seigneur aux disciples. C'est le Seigneur qui a introduit ça dans Jean 14, 1 à 3. Le Seigneur qui en a parlé dans les évangiles. En passant, il y a juste un endroit dans les évangiles, dans les quatre évangiles, il y a un seul endroit qui nous parle de l'enlèvement de l'Église. On dirait peut-être quand on parle dans les évangiles synoptiques, un sera pris, l'autre laissé. Ce n'est pas l'enlèvement de l'Église. Ceux qui sont pris, c'est comme au jour de Noé. Ce qui arrivait au jour de Noé arrivera au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien. Mais qui a été enlevé à ce moment-là? C'est les méchants qui ont été enlevés de la terre. Noé, lui, est resté sur la terre. Parce que Dieu l'a épargné, puis il l'a fait passer à travers la tribulation, puis il l'a fait ressortir sur une terre nouvelle pour recommencer. Mais ceux, dans les jours de Noé, ceux qui ont été enlevés, c'est ceux qui étaient les méchants, ceux qui n'ont pas rentré dans l'arche par la foi. Ils ont été jugés, ils ont été enlevés. Mais le Seigneur Jésus, dans Jean 14, il dit ici aux disciples, dans la chambre haute, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Donc il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc c'est pas la question ici, on n'est pas dans la tribulation, à la fin de la tribulation, avec le jugement des nations vivantes. Le Seigneur il dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc c'est différent de ce que on avait dit. Donc mais comme j'ai dit tantôt, le seul endroit dans les évangiles qui parle de l'enlèvement d'Église, c'est dans Jean au chapitre 14, 1 à 3. Puis on sait parce qu'il parle de la maison du Père. La maison du Père, c'est dans le ciel. Puis c'est là qu'est notre destinée, c'est là qu'est l'espérance de l'Église, c'est d'être enlevé pour être dans la maison du Père avec le Seigneur, puis transformé avant d'aller dans la maison du Père. Mais on voit que deuxièmement, le Seigneur, premièrement, il a introduit ce mystère-là à ses disciples dans la chambre haute, mais de Paul, lui, il met l'emphase sur la personne qui vient dans 1 Thessaloniciens 4, comme on était tantôt. Paul, lui, il met l'emphase sur qui vient. C'est pas un ange qui vient. Au verset 16 de 1 Thessaloniciens 4, il dit, car le Seigneur lui-même, c'est pas un autre, c'est le Seigneur lui-même, comme il avait dit dans le livre des Actes, au début, ce même Jésus que vous avez vu montant au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Donc, c'est le Seigneur lui-même à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, c'est pas sur la terre. On s'en va trouver le Seigneur qui est dans les airs. Et à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Puis là, il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, c'est le Seigneur lui-même qui va venir au son de la trompette de Dieu. C'est lui qui va venir. Paul met l'emphase sur le fait que c'est le Seigneur Jésus qui vient enlever son Église. Puis, on ne devancera pas, comme il dit, on ne devancera pas ceux qui sont décédés. Puis il dit ça pour les consoler parce qu'ils ont perdu des gens, des êtres chers qui sont morts. Puis le Seigneur dit, c'est pas grave, les autres s'ils sont morts, on ne les devancera pas, on n'ira pas avant eux autres. Avant, le Seigneur va les ressusciter premièrement, ils vont venir nous rejoindre parce que nous, ceux qui sont vivants, on va être sur la terre. Donc les morts, eux, ils ressuscitent incorruptibles. Puis ils viennent nous rejoindre ici. Nous, on est transformés en un instant, en un clin d'œil. Ensuite, ensemble, on est enlevés à la rencontre du Seigneur sur la nuée. Puis ainsi, on va toujours être avec le Seigneur. Mais troisièmement, Paul parle aux Philippiens. C'est quatre portions principales qui nous parlent de l'enlèvement de l'Église. C'est mentionné ailleurs aussi, mais on prend les principales. Paul, il en parle aux Philippiens. Les Philippiens, dans le chapitre 3, Paul, il parle aux Philippiens, puis il parle de l'emphase est mise sur notre vocation ici, là. Parce que le chapitre 3 des Philippiens, c'est comme une autobiographie de Paul. Paul donne qu'est-ce qu'il était auparavant avant d'être sauvé. Puis, chose qui était pour lui un gain, il regarde comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. Puis, après qu'il est sauvé, ben, Paul, il sert le Seigneur Jésus. Puis il fait plus partie des gens de la terre. Paul, maintenant, il est citoyen des cieux, comme nous qui sommes sauvés, on est des citoyens des cieux. Puis il parle de courir vers le but et tout ça, mais il met l'emphase, lui, sur la vocation, notre vocation. Il ne faut pas perdre de vue notre vocation. Notre vocation, comme on a dit, ce n'est pas de réformer la terre, ce n'est pas de lutter contre le monde, puis c'est de vraiment servir le Seigneur, chercher des âmes pour le Seigneur, prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, faire des disciples. Puis il dit au verset 20, mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons des cieux, donc d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. Et regardez qu'est-ce qu'il dit après au verset 21, qui transformera. Donc, c'est en accord avec 1 Thessaloniciens 4 qu'on a lu tantôt, qui transformera le corps de notre humiliation. Paul, il parle de ce qui était auparavant. Maintenant, il appartient au Seigneur Jésus-Christ. Puis il dit qu'il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Donc, on va être glorifié, on va être transformé au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et vous, dans sa puissance, le Seigneur va nous ressusciter. Il va, si on est mort, il va, si on n'est pas mort, il va nous transformer en un instant d'un clin d'œil parce qu'il faut revêtir l'incorruptibilité. Il faut revêtir l'immortalité afin qu'on puisse être dans un corps qui va demeurer éternellement avec le Seigneur Jésus, où il n'y aura plus de péché. Donc, Paul ici, il parle de notre vocation. Aux Philippiens, il parlait de mettre l'emphase sur, aux Thessaloniciens, mettre l'emphase sur celui qui venait, sur la personne qui vient dans 1 Thessaloniciens, puis aux Philippiens, il met l'emphase sur notre vocation. C'est ça qu'on va être. On est des citoyens des cieux, il ne faut pas oublier. Le quatrième passage, qui est vraiment, c'est de 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 qu'on a commencé avec, ça c'est un autre passage qui est tellement clair sur l'enlèvement de l'Église, 1 Corinthiens 15. Donc ici, l'emphase est mise sur la résurrection. C'est l'emphase qui est mise, c'est sur la résurrection. Le problème que les Corinthiens avaient concernant la résurrection physique. C'est certain que c'est difficile de voir ça, mais on voit que la résurrection, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans un salon funéraire de voir le corps-là, puis avez-vous déjà pensé que si ce corps-là qui est mort sortait de la tombe tout d'un coup, ben, je pense qu'il y en a plusieurs qui sortiraient du salon aussi. Mais c'est une puissance, ça prend toute une puissance pour sortir, prendre un corps, puis on pense même à des corps qui ont été peut-être mangés par des bêtes sauvages ou qui ont jamais été retrouvés ou qui ont été brûlés dans des feux ou que des particules. Mais le Seigneur est capable, dans sa puissance, c'est ça que Paul il dit, 1 Corinthiens, c'est tellement un beau chapitre qui nous montre de la puissance du Seigneur pour ressusciter les morts. Le Seigneur Jésus était ressuscité des morts. Puis il est les prémices de ceux qui vont être ressuscités. C'est lui qui vient comme prémices. Si Jésus-Christ est ressuscité, c'est la garantie que nous aussi, lui, il a vaincu la mort. Il est entré dans la mort. Puis, la mort n'a pas pu le garder captif. Le Seigneur Jésus est sorti vivant du tombeau. Puis, il vit éternellement. Il dit, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Il est vivant éternellement. Puis, c'est de cette même résurrection-là que nous, on va, ceux qui ont reconnu le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel, on va vivre cette même résurrection-là. C'est une résurrection de vie. On sait que les morts vont ressusciter aussi, mais c'est la résurrection des morts. Nous, on est la résurrection d'entre les morts pour ne plus jamais mourir. Les morts, eux, ils vont être jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Mais ils ressuscitent pour être jetés dans l'étang de feu, c'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais nous, le Seigneur Jésus-Christ, mais nous, on va être avec lui pour l'éternité. Donc, 1 Corinthiens 15, il met l'emphase sur la résurrection. Puis le problème, eux, il y avait des problèmes. C'est pour ça que Paul leur a écrit ce chapitre-là aux Corinthiens, parce qu'il y avait des problèmes avec les résurrections. Il y avait des gens qui ne croyaient pas à la résurrection. Imaginez, des gens qui étaient à Corinthe, des chrétiens, qui ne croyaient pas à la résurrection. Et Paul lui dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que la vie ici, pour un chrétien, pas toujours rose. Le Seigneur nous a avertis dans Jean, et il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les chrétiens souffrent. Paul était un homme après il s'est associé au Seigneur Jésus-Christ, après qu'il a mis sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est devenu un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Paul a souffert toute sa vie. Puis, mais c'est la résurrection qui fait en sorte que ça vaut la peine. Si on est pour souffrir ici, puis il n'y a pas de résurrection que ça nous donne. Mais s'il y a de résurrection, ça met ça met en lumière Okay? Ça vaut la peine de souffrir pour le Seigneur Jésus. Parce que l'éternité, nous, on souffre pour un peu de temps, mais on souffrira plus dans l'éternité, plus jamais. Ceux qui n'ont pas mis leur confiance en Jésus-Christ, ils souffrent quand même ici. Peut-être pas les mêmes souffrances que nous autres. Nous, on souffre en tant que chrétiens. C'est des souffrances qu'eux n'ont pas. Mais ils ont quand même des souffrances. Mais ils vont souffrir pour toute l'éternité. Fait que ça vaut bien plus la peine de souffrir pour un peu de temps, puis de jamais souffrir pour l'éternité, plutôt que d'être ici, puis d'être épargné quelques souffrances pour un peu de temps, ensuite de ça, avoir des souffrances éternelles. C'est ça qui est la différence. Puis Paul, c'est pour ça qu'il donne un beau chapitre ici, 1 Corinthiens 15, c'est tellement une forteresse sur le sujet de la résurrection. C'est vraiment merveilleux. Mais il y avait des gens qui ne croyaient pas à la résurrection. Vous savez, il y a des gens qui sont incrédules. Il y a des gens qui ne croyaient pas. Parmi les Juifs, il y avait des gens qui ne croyaient pas à la résurrection. Hein, on se souvient des Sadducéens. Hein? Puis à un moment donné, quand Paul il était amené en procès devant les pharisiens, les Sadducéens, s'étaient unis ensemble dans le chapitre 23 des Actes. Ils étaient unis ensemble pour condamner Paul, pour essayer de l'arrêter. Mais ces gens-là, ils n'étaient pas de la même pensée. Puis Paul, sachant que parmi la foule qui était là, il y avait des Sadducéens et des pharisiens, il s'est écrié devant la foule. Il dit, c'est à cause de la résurrection que je suis dans ces chaînes. L'espérance que nos pères. Puis là, ça a commencé une vive discussion entre eux parce que les Sadducéens, eux, ils disent, ils ne croyaient pas qu'il y avait la résurrection. Ils ne croyaient pas qu'il y avait des esprits, ils ne croyaient pas qu'il y avait des anges, ils ne croyaient pas aux choses surnaturelles. Et puis là, ça a fait une dissension dans l'assemblée. Mais parmi les païens, parce que l'Évangile est allé vers les païens, parmi les païens, il y avait des gens qui ne croyaient pas non plus à la résurrection. Paul, il parlait quand il était à Athènes. À l'aréopage à Athènes, il parlait, puis il s'est adressé, on va aller dans Acte 17, voir comment que c'était les épicuriens, eux, ils ne croyaient pas non plus à la résurrection. C'est certain que quand on parle de résurrection, c'est quelque chose de penser que des morts vont revivre avec un corps glorieux. Puis dans Acte 17, au verset 18, on peut peut-être recommencer avec le verset 17. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, ça c'était des philosophes, épicuriens, des disciples d'Épicure, et stoïciens, c'était des disciples de Zénon, se mirent à parler avec lui et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Mais regardez au verset 32. Il dit, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent donner l'Areopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Donc, parmi les Juifs, il y avait des gens qui ne croyaient pas à la résurrection. Puis, parmi les païens aussi, il y avait des gens qui ne croyaient pas à la résurrection. C'est pour ça que Paul donne tout un énoncé ici sur la résurrection. Puis, 1 Corinthiens 15, c'est tout un enseignement sur la résurrection qui explique la solution au problème posé. C'est comme si dans 1 Corinthiens 15, il répond aux arguments de ceux qui sont incrédules, de ceux qui ne croient pas à la résurrection. Premièrement, dans les versets 1 à 4 de 1 Corinthiens 15, il démontre que c'est le fondement même de l'Évangile. Il dit, je vous ai annoncé avant tout, je vous rappelle, frère, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité selon les Écritures, le troisième jour selon les Écritures. Donc, c'est le fondement, il démontre en commençant son argument que c'est le fondement même de l'Évangile. Si on croit pas, si on ne retient pas dans ces termes-là, on aurait cru en vain. Jésus-Christ est mort selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Ça, c'est les faits sur lesquels repose tout le message de l'Évangile. Si on manque à ces faits-là, on n'a rien du tout. Ensuite de ça, il parle que c'était prouvé, c'est des faits authentiques. Il y a quelqu'un qui disait, il n'y a personne qui l'a vu, le Seigneur. Oui, il y a des gens qui ont vu le Seigneur. On voit dans les. Il dit qu'il est apparu, comme dans le verset 5, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Puis quand Paul écrit ça, là, il y avait des gens encore qui avaient vu de leurs yeux le Seigneur Jésus ressuscité. Puis les gens pouvaient aller vérifier avec eux autres. Ils étaient encore vivants. Ils pouvaient aller les voir puis leur dire, est-ce que c'est vrai que vous avez vu Jésus-Christ ressuscité? Puis ils auraient pu dire, oui, on l'a vu, on l'a touché, on l'a vu de nos yeux, on a mangé avec lui. Donc, il a été apparu à des gens. Ça, c'est les faits que, ça, c'est les faits authentiques qui étaient réels de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les versets 12 à 19, bien, ils parlent des problèmes de nier la résurrection. Il dit, si on nie la résurrection, là, il dit au verset 12, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc, ça cause des vrais problèmes de nier la résurrection. Puis il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, ça jette tout à terre. Et il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Là, c'est là qu'il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc, c'était les problèmes qui causent de ne pas croire à la résurrection. Mais ensuite de ça, il parle dans les versets 20 à 28, il parle de l'ordre dans la résurrection. C'est Christ comme prémisse, puis nous qui appartenons à Christ, lorsqu'il va revenir, ceux qui sont, maintenant Christ est ressuscité des morts, il est des prémices de ceux qui sont morts. Et comme il dit... Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc ça, c'est la résurrection d'entre les morts. Puis ensuite viendra la fin. Après ça, viendra la fin quand il va remettre le royaume à celui, remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Okay? Donc ici, on voit que c'est l'ordre dans la résurrection, mais les versets 29 à 34. Il dit, la résurrection, c'est le motif ultime. Il parle de ceux qui ont été persécutés, ceux qui ont, comme lui, qui ont combattu contre les bêtes à Éphèse. Si les morts ne ressuscitent pas, qu'est-ce que ça donne de mourir pour le message? Il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de résurrection. Donc, c'est le motif ultime. Tous les martyrs sont morts. Pourquoi qu'ils ont choisi de mourir pour le Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'ils avaient en vue la résurrection. S'il n'avait pas eu en vue la résurrection, il aurait reculé devant la mort. Mais il ne reculait pas devant la mort. C'est vraiment la résurrection devient le motif ultime pour aller jusqu'au bout dans le service pour le Seigneur, aller jusqu'à la mort pour le Seigneur. Dans les versets 35 à 50, maintenant, il parle des corps de résurrection. Comment est-ce que les morts ressuscitent? Avec quel corps reviennent-ils? Le Seigneur Jésus n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Puis il va leur démontrer, on va voir ça un petit peu, comment les corps de résurrection, il va y avoir quelque chose du corps qui a été mis en terre, mais il va être plus glorieux, il va être immortel, il va être incorruptible, mais il va avoir de quoi avoir avec le corps qui a été mis en terre. Comme il parle de quand on sème un grain, il faut qu'il meure pour qu'il revienne. Ensuite de ça, ben, comme on a lu dans les versets 51-57, la résurrection pour les morts et pour les vivants. Donc, la résurrection, on va faire partie de cette résurrection-là, même si on ne passe pas par la mort. On va être ressuscité on va revêtir le même corps que ceux qui vont ressusciter des morts, un corps glorieux. Puis, dans le verset 58, ben, c'est l'attente de la résurrection. Qu'est-ce qu'on fait en attendant la résurrection? Qu'est-ce qu'on fait en attendant l'enlèvement de l'Église? On ne s'assit pas pour attendre, on avance. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, c'est ça qu'on doit faire, marcher jusqu'à ce qu'on soit enlevé, marcher pour le Seigneur. Ça, c'est important. Donc, il y avait deux questions qui ont été posées dans le verset 35 de 1 Corinthiens 15. Il dit, mais quelqu'un dira. Donc, Paul, il parle toujours, Paul parle souvent avec quelqu'un qui argumente avec lui, comme s'il introduit un argumenteur. Puis il dit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Donc, ici, il y a deux questions qui sont posées, deux parties à cette question-là. Puis, Paul, il répond à la dernière partie de la question avant la première. Puis, c'est dans les versets 36 à 46 qu'il parle lorsqu'il dit, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. On voit ça, le Seigneur a donné dans la nature des exemples pour nous autres. Vous voyez, on voit un grain de blé, là, on le met en terre, puis il faut qu'il meure. S'il ne meurt pas, il ne poussera pas. Mais s'il meurt, il revient à la vie. Puis le Seigneur Jésus, il dit même que c'est lui qui est ce grain de blé qui a été mis en terre, qui est ressuscité, puis qui produit toute une germe, une abondance de fruits. Donc, pour répondre à la dernière partie de la question ou la deuxième question, il va prendre des illustrations. La première illustration, c'est de la botanique. De la botanique, hein, c'est la semence. Hein, la semence avec la récolte. La récolte représente la résurrection. On met un grain. Puis, celui qui met le grain en terre, il met avec espérance de pouvoir récolter, parce que s'il n'y avait pas l'espérance de récolter, il garderait son grain. Moi, je suis pas terrible dans l'agriculture. J'avais semé un seau de patates, puis j'ai récolté un seau de patates. Ça, c'est pas tellement bon. Mais quand on met ça en terre, j'aurais dû garder mon seau de patates en premier lieu. Mais quand on le met, c'est pour en avoir plus. C'est pour ça qu'on met le grain en terre, parce qu'on s'attend à une récolte. Puis c'est ça, la résurrection. Là, il prend une illustration dans la botanique. On sème parce qu'on sait que ça va pousser, parce qu'on sait qu'il va y avoir une récolte. Ensuite de ça, il prend une illustration de la biologie. Il y a quatre sortes différentes sortes de chair. Il dit, il y a la chair des hommes qui est différente. Ça marche pas avec l'évolution parce que l'évolution dit qu'on a évolué à ça, mais la chair des hommes est différente. Puis, il y a la chair des animaux qui est différente. Il y a la chair des oiseaux qui est différente. Il y a la chair des poissons. Donc, ce n'est même pas limité dans comment va être le corps de résurrection. Déjà, il nous demande dans sa puissance qu'il est capable, il a fait la chair des hommes différente, la chair des animaux différente, la chair des oiseaux différente, la chair des poissons différente. Donc, il n'y a pas de problème avec le Seigneur. Il manque pas de puissance ou d'imagination. Ensuite de ça, il prend une illustration, la troisième illustration, c'est dans l'astronomie. Il parle des corps célestes. Le Soleil a une gloire qui est différente de la Lune, un éclat différent de la Lune. Les étoiles ont même les étoiles entre eux autres ont des éclats différents. Donc, le Seigneur n'est pas limité. On va avoir un éclat qui va être différent les uns des autres, mais ça va être la puissance de Dieu qui va avoir tout fait ça. Donc, il n'y a pas manqué à ça. Mais la réponse à la première question, quand il dit comment les morts ressuscitent-ils, ben là, c'est à partir du verset 51. Il dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant d'un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Comment les morts ressuscitent incorruptibles et nous, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la foi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ça qui est vraiment l'espérance merveilleuse qu'on a, nous, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Puis, perdons pas notre espérance. Laissons-nous pas convaincre par des gens qui vont nier qui vont nier la parole de Dieu qui nous donne une espérance merveilleuse. Pourquoi qu'on voudrait nier ça? Moi, c'est ça que des fois je dis aux gens, si vous voulez passer dans le jugement, passez, moi je ne passe pas. Tout on s'en va dans l'espérance. On est épargné. Il va nous sortir de cette. Puis il y a d'autres endroits dans le Nouveau Testament, on n'a pas tout vu. Il y a d'autres endroits, c'est partout dans le Nouveau Testament, cette espérance-là de la vie éternelle. C'est que je m'arrête là, puis j'ai déjà dépassé un petit peu mon temps. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous ai donné la possibilité de prendre votre micro. S'il y en a des fois qui ne peuvent pas prendre leur micro, laissez-moi savoir, puis je vais vous aider.
Oui, Gérald, c'est mentionné dans 1 Corinthiens 15, justement, que l'enlèvement aura lieu lors de la dernière trompette. Il y en a qui disent que la dernière trompette de 1 Corinthiens 15, c'est la même trompette que la septième trompette de l'Apocalypse. Puis si c'était ça, il faudrait que l'Église passe sur une partie de la tribulation. Qu'est-ce qu'on répond à ça?
Ben, c'est ça, c'est pas la trompette c'est pas une trompette de jugement ici. Quand on parle des trompettes dans l'Ancien Testament, c'est un sujet qu'on voit dans l'Ancien Testament, les trompettes étaient pour rassembler le peuple. Si on se rappelle bien, là, attends un petit peu, les trompettes, c'est dans Exode, ça me vient pas à l'idée, là. Mais quand les trompettes sonnaient, c'était pour rassembler le peuple. Puis quand la dernière trompette sonnait, tout le peuple était rassemblé. On avait la première trompette, il y avait ceux qui étaient à l'Orient, il y avait trois tribus avec les Lévites qui étaient à l'Orient. Puis tout le tour, on faisait tout le tour du tabernacle, puis on partait pour aller à la guerre où on se rassemblait à la tente d'assignation. Donc les trompettes, c'était pour le rassemblement, mais ce n'est pas les trompettes de jugement qu'on voit dans l'Apocalypse. Parce que ça viendrait contredire qu'on est délivré de la colère à venir.
J'aurais peut-être une question, puis
Oui.
deux questions encore. On voit présentement qu'à travers l'enseignement, quand Jésus-Christ va revenir, tout le monde va le voir. Mais lors de l'enlèvement de l'Église, nous allons voir, est-ce qu'on va voir Jésus en montant ou une fois rendu? Est-ce que le monde va le voir à ce moment-là?
Non,
Non, hein?
je ne veux pas que le monde le voie, il va être sur la nuée. On voit sa rencontre sur la nuée.
Ouais.
Quand le Seigneur est monté dans le livre des Actes, on voit juste qu'il ne semble pas que les autres l'ont vu quand il est monté. Il était avec ses disciples parce que le Seigneur avait dit avant de partir, avant d'aller à la croix, il avait dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça, c'est à la fin de la tribulation. C'est seulement ses disciples à qui il est apparu pendant 40 jours avant de monter au ciel. Puis eux, ils l'ont vu monter au ciel jusqu'à ce qu'une nuée le dérobe à leurs yeux. Mais on ne voit pas que les gens alentour ont vu le Seigneur monter au ciel.
La deuxième question est peut-être pas rapport, mais je me posais cette réflexion aujourd'hui. On a parlé de l'ivraie puis du bon grain. Et je me demandais, le chien dent, ça, c'est-tu de l'ivraie? Y a-t-il une différence entre le chien dent qu'on appelle par ici et puis l'ivraie?
Je ne sais pas, là, je ne connais pas assez dans le chien d'air, c'est comme une mauvaise herbe. Oui.
Ça ressemble à du blé, hein?
Oui, mais ouais, ça, je ne me souviens pas. Je me souviens du terme le chien d'air, mais je ne me souviens pas de qu'est-ce que ça avait l'air.
OK. Pour moi, je ne
Merci.
croirais pas que le chien dent, ce serait livré.
Non.
Ça ressemble assez peu au blé. Parce que livré ressemble au blé.
Mais je ne sais pas, quand on dit ça, des fois que l'ivraie ressemble au blé, mais il dit quand les deux ont poussé, les disciples ils ont dit comment ça se fait qu'il y a de l'ivraie. Ils l'ont reconnu,
Oui.
l'ivraie.
Ouais.
Mais c'était, je pense que c'est quand on la déracine, en la déracinant, parce que ses racines sont entremêlées avec le blé, c'est là qu'on arracherait aussi le blé. C'est-à-dire, laisser croître les deux ensemble, puis à la fin, à la moisson, on va séparer, après qu'il va être déraciné. OK, oui. Ouais, Francine a dit c'est nombre 10, soit les trompettes.
Et pour répondre, pour l'ivraie et le chien d'Inde, c'est ça, il y a une très grande ressemblance avec le blé, mais le chien d'Inde, quand il est mature, il n'y a pas de grain.
Ah, OK.
Il fait aucun grain. Mais
Ça ne dit pas.
tu peux mettre le blé et le chien d'Inde à côté, c'est pareil. Mais tu ne peux pas l'arracher. Si
Non.
tu arraches le chien d'Inde,
Tu vas arracher le.
il se reproduit encore plus.
OK.
C'est une parole, comme on dit dans le peuple de Dieu, il y a de l'ivraie, parfois il y a de l'ivraie. Il peut y avoir de l'ivraie dans le peuple de Dieu, c'est dans l'enlèvement qui va classifier, mais on ne peut pas l'enlever. On risque de détruire tout ce qu'il y a autour. C'est le Seigneur qui va faire comme on dit, qui va s'occuper de ça à l'enlèvement.
Ouais. Une fois que.
C'est une question que je lance.
Ouais. Ben, c'est sûr que comme c'est pas une excuse pour dire que dans l'Église, on tolère les
Non, c'est
inconvertis.
ça.
Ouais.
Oui,
Parce que
exact.
où le péché, il faut juger. Le Seigneur nous a donné de juger. Qu'avez-vous à juger ceux du dehors, c'est ceux du dedans que vous devez juger.
Oui, c'est vrai, ça. Merci. C'est bon.
Merci.
Peut-être on a dépassé un petit peu notre temps, c'est qu'on va terminer par un mot de prière. S'il y en a qui veulent continuer de jaser, on peut jaser encore. Puis s'il y en a qui doivent partir, ils vont pouvoir partir. Seigneur notre Dieu, on te remercie de ce que tu nous révèles des choses merveilleuses, notre Dieu. Quelle espérance pour nous qui avons mis notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'on ne passera pas dans la tribulation, on ne peut pas être jugé parce que le Seigneur Jésus a été jugé pour nous. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette espérance merveilleuse que bientôt, en un instant, en un clin d'œil, on va être transformé. Puis ensuite, on va être enlevé à la rencontre du Seigneur sur la nuée. Seigneur, donne-nous de vivre toujours en marchant d'une façon digne de toi, en attendant ton Fils. On s'est converti à Dieu en abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et attendre des cieux son Fils Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Merci encore une fois, Seigneur. Merci pour tous ceux qui sont là. Bénis chacun au nom du Seigneur Jésus-Christ. Encourage-nous, notre Dieu, dans ces derniers temps. Amen.